Mon cher Hugues, pourquoi les chansons et les musiques sont-elles absentes du podcast ?
Ah, c'est une question de droit d'auteur, mon cher Rudy. On vous donne le teaser, mais l'action complète, c'est sur ovio.be.
Donc ici, c'est une sorte d'avant-goût. Et là-bas, sur ovio.be, c'est le festival complet.
La première.
19h-20h.
La semaine des 5 heures.
Hugues Daillé, Rudy Léonet.
Oh là là, Namur. Ah, Hugues, je vous avais dit de ne pas escalader la statue Place de l'Ange pour voler la trompette.
Oui, mais c'est la magie de la COD, moi, emporté dans mon élan. Mais heureusement, il n'existe aucune trace vidéo de ce haut fait. Oui, ou alors je la monnaie très cher.
Ça, c'est votre vœu pieux.
Oui, c'est mon vœu pieux.
Oui, vous, habillé en billet trumé picard.
En tout cas, j'ai vu personne à part vous.
Oui. Bon, écoutez, si jamais ça pose problème, on va plaider la pause.
La magie COD.
Non, l'art contemporain. Ah. Vous étiez en train de faire une performance.
Une installation.
Ça, à mon avis, à Namur, ça va passer.
Bon, ben bonsoir, mon cher Rudy. Cela
Comment
étant.
Comment allez-vous, mon cher?
C'est très bien, très bien. Il n'y a plus beaucoup d'encre dans la cartouche, mais on va faire en sorte que cette dernière heure de la semaine des 5 heures tiennent ses promesses, voilà.
Vous retournez la cartouche et vous
et je tapote.
Une pichenaude.
Une pichenette. Oui, je ne sais plus.
Enfin, vous tapez dans la cartouche.
Je tape, quoi. Oui.
Bonsoir Antoine Duhart, ça va depuis hier?
Ah, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. Bon, on y va alors.
On y va, c'est parti. Pour ouvrir aujourd'hui, une jeune Anglaise qui s'appelle Lola Young. Elle sera bientôt en tournée partout, tout autour de la Belgique, mais pas chez nous. Enfin, à Paris, Amsterdam, voilà, pas chez nous, j'ai vérifié. Et elle arrive avec une nouvelle chanson. Elle s'était faite connaître il y a quelques années parce que, après avoir participé à The Rising Star, qui est une émission de télécrochet en Angleterre où elle s'est
fait remarquer. C'est le Everybody Got the Talent? Non, c'est uniquement
The Rising Star. Ça s'appelle The Rising Star. C'est ça. Sur une chaîne anglaise. Elle a été repérée par l'agence de communication qui s'occupe des fameuses campagnes de Noël de John Lewis.
Ah ouais!
Et il lui avait demandé en 2021 de reprendre Together in Electric Dreams, la chanson de
Human League.
De Phil Oakey en solo. En l'occurrence, c'est pour un film qui à l'époque était produit par Virgin, Electric Dreams. Et donc elle reprend cette chanson pour la campagne de Noël et ça lui met vraiment le pied à l'étrier, ça la met sur orbite pour une vraie carrière. Elle arrive avec une nouvelle chanson et les observateurs disent de cette Lola Young qu'on dirait Lily Allen qui a avalé Amy Winehouse avec un grand verre de Billie Eilish. C'est pas faux. Dites à propos de Amy Winehouse.
Vision la semaine prochaine et sortie dans 15 jours, je pense.
Mais les premiers retours sont pas très très bons. Hein. Et donc l'équipe se défend. Vous connaissez l'argument
de système de défense.
Système de défense, aussi bien la prod, réalisation que les acteurs. Oui, mais on le savait bien que les gens n'aimeraient pas.
Ah oui,
Ok. Alors dire, oui, mais Amy, dès qu'on touche, ça, les gens n'aiment pas, donc fallait pas s'attendre non plus à...
Oui,
c'est bizarre comme...
Ah oui, c'est bizarre. La meilleure défense, c'est l'attaque, comme dirait l'autre.
Vous nous direz, avec la bande originale, enfin, pas les chansons, forcément, qui sont celles d'Amy Winehouse. Les vrais, pas les vrais, les droits, pas les droits, on verra.
Je tiens ça à l'œil.
Mais la musique du film, la musique instrumentale du film, signée Nick Cave.
Oui, enfin, de toute façon, c'est un projet. À partir du moment où il existe un documentaire extraordinaire avec les propos même d'Amy Winehouse, avec le rôle du père, enfin, ce documentaire est inégalable. Donc voilà pourquoi, effectivement. C'est...
Suite à l'écran, enfin, et on en parlera ici en temps voulu, parce que pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est Lola Young et sa chanson Big Brown Eyes.
Elle Ice. Fait une tournée ou une tournée des pubs?
Ça, c'est, on peut se poser la question. Ouais. Elle est forcément anglaise.
Hein. Oui.
On imagine qu'elle est chic, une chic bazooka, en faisant des ballons.
Oui.
Elle a un débit pas possible.
Voilà.
Et puis peut-être une tournée des pubs, mais à l'heure de l'happy hour.
Oui.
Comme ça, elle commande
un plateau.
6 tournées. Oui. Comme ça, elle reçoit 12 verres.
Des pints.
En se disant que de toute façon, tant pis si la mousse retombe. Au départ, il n'y a quand même pas de mousse. Et si la bière refroidit, c'est pas grave.
C'était déjà tiède
à la base.
Ah ouais. Oui. Et elle ne fait pas que chanter.
Non, elle écrit aussi.
Ah ouais. Donc c'est ses morceaux à elle.
C'est ses morceaux.
C'est non seulement son débit, mais ce sont ses morceaux.
Bien.
Bien, Lola Young.
Oui, elle est très très bien.
Alors, pendant un gros dossier, mon cher Rudy, pendant tout cet automne et cet hiver, ça a défrayé la chronique, l'affaire Depardieu. On en a quasi pas parlé dans 5 heures, parce que qu'est-ce qu'on aurait pu ajouter...
C'était plus du cinéma, c'était de la justice.
Mais oui, et puis qu'est-ce qu'on aurait pu ajouter aux déclarations pour, contre... Voilà, par contre, une nouvelle pièce... est arrivé au dossier, c'est un livre qui vient de paraître et que j'ai dévoré. Il s'intitule tout simplement, et c'est assez amusant parce qu'il n'est pas du tout fait mention de Depardieu dans le titre, il s'intitule « Une affaire très française » et il y a un bandeau avec une photo de Depardieu jeune avec marqué « L'enquête inédite ». Donc, pourquoi Depardieu n'est pas mentionné ? Je ne connais pas la raison. Mais en attendant, « Une affaire très française » est signée non pas par deux journalistes, People ou de journalistes de presse tabloïde, pas du tout. C'est Raphaël Baquet et Samuel Blumenfeld. Ce sont deux journalistes du journal Le Monde. Raphaël Baquet est connu comme journaliste d'investigation. Elle a signé beaucoup de livres avec Ariane Chemin. Elle a fait un Kaiser Karl sur Karl Lagerfeld. Elle a fait des livres sur Mitterrand, des livres politiques sur DSK. Donc c'est une journaliste généraliste, on a envie de dire. Tandis que Samuel Blumenfeld est journaliste et critique de cinéma. Donc, le binôme ici s'explique parfaitement. Je tiens tout de suite à dire que ce livre s'adresse à un public qui serait intéressé par le phénomène de Depardieu, mais ce n'est pas un livre de cinéma. Il n'est pas nécessaire d'avoir vu des dizaines de films de Depardieu pour comprendre de quoi il retourne. Des biographies de Depardieu, ça existe déjà. Depardieu a lui-même écrit des livres de souvenirs, donc on est tout à fait dans autre chose. Et la démarche ici, c'est en gros... Bah, c'est du décryptage. C'est comment est-ce qu'on en est arrivé là. C'est-à-dire qu'il y a un avertissement clair. Depardieu n'a pas encore été jugé. Il y a une présomption d'innocence. Il y a des accusations de viol. On n'est pas là-dedans. On n'est pas en train d'interviewer les victimes. On est beaucoup plus en train d'analyser le chemin de vie. Et comment est-ce que quelqu'un qui a été au sommet et à ce point adulé peut aujourd'hui être... vraiment totalement condamné à être cloîtré chez lui. Voilà.
J'avais deux petites questions préalables. En fait, le fait d'avoir une enquêtrice qui s'intéresse à l'homme et un critique cinéma qui s'intéresse à l'artiste, ici on réunit un peu les deux facettes pour ne pas séparer l'homme de l'artiste.
Absolument. De l'art. Absolument. Et d'ailleurs, justement, dans le livre, il est souvent question des journalistes culturels qui n'ont absolument posé aucune question dérangeante à Depardieu sur Poutine, sur ses amitiés avec les dictateurs, ses affaires parfois louches, et qu'effectivement il y a eu très très souvent une scission complète entre ce que Depardieu pouvait faire en dehors du cinéma et ce qu'il faisait encore à l'écran.
Deuxième question.
Allez-y.
On a l'impression que dans cette affaire, chacun doit choisir son camp. Ou bien on est... pour défendre Depardieu, quoi qu'il arrive, aveuglément parfois, ou alors pour le condamner sans présomption d'innocence.
Parfois tout aussi aveuglément.
Alors, c'est quel camp, celui des deux auteurs ?
Eh bien, ici, c'est un livre explicatif qui prend justement ses distances et qui peut parfois utiliser des extraits de défenseurs, qui a aussi rencontré des personnalités qu'ils connaissent très bien, comme Jean-Louis Lévy, qui a été son agent, qui était une personnalité et qui est devenu producteur.
Qui était interviewé
dans le complément d'enquête, absolument. D'enquête. Donc, il y a quand même un vrai point de vue, enfin, un vrai travail journalistique vraiment de décryptage, de comprendre, d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on a basculé. Et le livre est découpé en 13 chapitres, qui sont des chapitres à la fois chronologiques et thématiques, et qui montrent donc le chemin de vie. Alors, on va pas tous les détailler, mais comprendre le basculement. C'est intéressant de montrer que dans les années 70, c'est les années 70 où le cinéma se permet tout. C'est la grande bouffe de Marco Ferreri, c'est le dernier tango à Paris et c'est les valseuses. C'est-à-dire que c'est nos limites. C'est de toute façon une période où les réalisateurs peuvent être transgressifs et avec parfois... Parce qu'il faut... On a relu tous ces films de cette époque-là avec un point de vue d'aujourd'hui, il faut les remettre dans leur époque. Et donc, à l'époque, Depardieu arrive et le film Les Valseuses fait scandale et en même temps révèle un comédien absolument hors norme. Et tous ceux qui le décrivent dans ces années-là le décrivent comme paillard, avec un humour bourrin, mais certainement pas comme un harceleur. C'est-à-dire que c'est effectivement le type qui plotte ou qui donne des claques sur les fesses, mais peut-être tout autant aux techniciens qu'aux techniciennes. C'est un type absolument... c'est un type païen, mais qui ne se cache pas, qui ne va pas aller dans les loges faire des trucs en catimini. Non, c'est comme on dit... C'est une expression qu'on a souvent.
Gaulois.
C'est Gérard. Voilà. C'est Gérard. Voilà. Et donc, dans les années 70, effectivement, ça ne choque personne parce que, d'autres le soulignent aussi, il y a une espèce aussi de générosité. C'est-à-dire que il est tout aussi sympathique avec les mécanos qu'avec les partenaires. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu extrêmement populaire et qui, justement, bouscule un peu les conventions bourgeoise du cinéma français. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est évidemment la gloire absolue des années 80 où il est de tous les projets, où on voit que tout le monde le veut dans toutes les directions, que ce soit Piala, que ce soit Truffaut. Hein, c'est une filmographie. Il est de tous les projets qui comptent. Et il y a vraiment le projet qui restera dans les annales, c'est évidemment le Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau. Qui lui vaut tous les honneurs. On dit, mais il est au sommet de son talent, Rappeneau, Jean-Claude Carrière. Enfin, on est devant la crème de la crème du cinéma français.
Tout à coup, cette espèce de Gaulois paillard bascule dans un registre
poésie.
De finesse.
Oui,
il dit un texte classique, mais il se le réapproprie
complète.
De façon
et ça, c'est très bien
juste.
Expliqué. C'est très bien expliqué. Il y a un chapitre complet là-dessus. Mais... Justement, c'est là où ça va basculer une première fois. C'est-à-dire que Cyrano, c'est la porte ouverte vers les Oscars. C'est il y a un boulevard pour qu'il ait l'Oscar du meilleur acteur et que ce soit l'Oscar du meilleur film étranger. Et souvenez-vous, à ce moment-là, il y a des journalistes américains qui s'intéressent à lui et il y a un journaliste qui va ressortir une vieille interview où il a parlé de ce qu'il a vécu dans son enfance à Châteauroux. En gros, c'est des gangbangs, c'est-à-dire des viols collectifs avec des filles assises sur des caisses.
Comme une anecdote.
Il le raconte lui-même. Il a dit, et il y a toute l'ambiguïté. Est-ce qu'il a participé ou assisté à ces viols collectifs? Et le problème est qu'à partir du moment où on ressort ces propos-là, il devient l'artisan de sa perte. Et il y aura sa carrière aux USA est stoppée net. Les Oscars, il n'y en aura pas. Il ne va pas se rendre à la cérémonie des Oscars et il en sortira terriblement meurtri parce qu'il aura un sentiment de... Enfin, il a l'impression que le ciel lui tombe sur la tête. Il se réfugie de plus en plus, et c'était déjà le cas, mais dans l'alcoolisme, parce que l'alcoolisme était très très présent dans sa famille,
avec le
dans
Dédé,
ses jeunes,
avec son père, avec le Dédé.
Et donc, c'est ce qui explique très très bien le livre. Donc, il y a déjà une première rupture. La deuxième rupture, même si ça reste, on ne connaîtra jamais l'intimité des êtres, c'est naturellement les rapports extrêmement difficiles et tendus, conflictuels avec Guillaume, avec son fils Guillaume, qui vont se... terminé sur un dialogue interrompu de façon tragique, puisque Guillaume va mourir d'abord amputé de la jambe, puis il meurt prématurément. Et le sentiment d'un rendez-vous manqué, il y a un chapitre complet consacré au film qu'ils ont tourné ensemble, Aime ton père. Donc voilà, les chapitres sont très thématiques, mais très éclairants. Et à partir de ce moment-là, il y a d'abord le ratage américain. Il y a ensuite le fait que cette espèce de culpabilité de ne pas avoir suffisamment aidé son fils et que, quelque part, il lui faisait... Il était tellement, tellement présent qu'il lui rendait être fils de Pardieu, c'était quasi impossible. Et toutes ces meurtrissures vont faire que non seulement il va se détacher de plus en plus du cinéma et perdre aussi, il va voir perdre des amitiés, des gens qui lui étaient très très importants dans le cinéma, comme Maurice Pialat, Truffaut dans une moindre mesure. Et c'est comme souvent dans les destins d'artistes, c'est l'entourage qui change. Les amis de la première heure ne sont plus là. Qu'est-ce qu'on a comme nouveaux amis? Et ce qu'on voit, c'est les nouveaux amis, ils sont pas du monde du cinéma. Ce sont des hommes d'affaires. C'est un type surnommé le roi du poulet.
C'est plus Jean Carmet.
C'est plus le cinéma. Et donc, c'est plus le cinéma. Et à partir du moment, ça devient le monde des affaires. Ça bascule dans les années 2000. Et on commence avec les vignobles. Et on commence avec les. Et à partir du moment où il y a le monde des affaires, qu'est-ce qui se passe? Il y a les tournées internationales. Il y a les territoires à conquérir.
Oui, parce que son nom est une marque, et cette marque, il faut l'exporter.
Voilà, il y a les territoires à conquérir, et alors les amitiés ou les complicités totalement insensées avec des Fidel Castro, avec des Poutine, et Poutine qui va être très très malin, et ça s'est expliqué dans un chapitre politique très très bien fait, Poutine qui va l'utiliser comme une marionnette, parce qu'en fait, plus ça avance, moins Depardieu a du recul.
Il n'y a pas de discernement
et il n'y a pas de culture politique. C'est chaque fois dire, c'est un autodidacte comme moi. Enfin, il dit le pire et son contraire. Il y a un maquilleur qui s'appelle Jean-Pierre Echène qui dit un truc formidable. Il a très très bien connu. Il dit, Depardieu est double. Quand il est généreux, il est beaucoup plus généreux que les autres. Quand il est bon acteur, il est deux fois meilleur que n'importe qui. Mais quand il est mauvais ou con, il est deux fois plus mauvais ou con que n'importe qui. Je dis pas que tout est dit, mais en tout cas, c'est intéressant comme point de vue. Et on voit en permanence le côté double de cet homme qui peut être, comme vous l'avez dit en parlant de Cyrano, qui peut être fin avec une vraie sensibilité poétique, une vraie délicatesse avec les femmes qui le défendent, les femmes qui ont vécu avec lui et qui le défendent bec et ongles, une vraie délicatesse. Et à côté de ça, il y a vraiment, c'est le diable et le bon Dieu, et à côté de ça, des excès, des propos... pas seulement sur les femmes, mais des propos justement sur les dictateurs absolument insensés, grotesques, un anti-américanisme primaire de par sa blessure américaine. Voilà, et tout ça est très très bien expliqué, et donc en fait, on voit, mais ce qui est, je pense, assez neuf dans ceci, c'est de montrer justement le basculement aussi lié d'abord aux blessures, mais lié aux entourages. L'entourage qui change quand on n'est plus entouré que de courtisans, et le monde du cinéma le prend, comme vous disiez, c'est une marque. Mais en attendant, ça fait 20 ans qu'il n'y a plus de films d'envergure, ou à peu près, parce que quelque part, il s'en fout et il court toujours après autre chose. Il y a un autre témoignage, je vous dis, c'est dingue. On a toujours le sentiment que quand il est là, il est déjà ailleurs, parce qu'il garde sa veste. Et j'ai vécu ça en l'interviewant. J'avais le sentiment d'un homme pressé qui consacrait un quart d'heure, mais qui était déjà dans le coup suivant, mais qui court après on ne sait plus quoi. Voilà. Donc, je pense que c'est un livre dense. Hein. C'est 170 pages. J'ai pas envie de dire que ça se lit comme un roman, mais presque. Et ça donne une bonne mise en perspective de cette affaire très française, de ce mythe français qui s'est écroulé et qui s'est, quelque part aussi, ils le disent eux-mêmes, qui s'est autodétruit. Il y a une dimension d'autodestruction chez ce monstre sacré qui est devenu aujourd'hui plus monstre que sacré.
Donc des auteurs qui ont un peu dévissé par rapport à la situation, qui ne sont ni des fans, ni des courtisans, ils ne sont pas en affaires non plus avec lui. Voilà. Ils dévissent et prennent un point de vue en hauteur pour évaluer le panorama de la situation.
Voilà. Et donc, une fois encore, ce n'est pas pour les cinéphiles pur jus, c'est simplement pour ceux qui s'intéressent au mythe de notre époque. Raphaël Baquet, Samuel Blumenfeld, une affaire très française.
Et c'est aussi quelque part une analyse de la célébrité.
Et de notre époque. Voilà. Voilà, mon cher Rudy.
Ça donne envie. J'espère que je vais vous donner envie avec ce qui suit. Enfin, j'en sais rien, c'est une proposition. Van Vlaanderen.
Ah, oh, ça faisait longtemps. Ouais,
ça faisait longtemps. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont, ces Flamands, avec d'une part l'électro et puis d'autre part avec les duos qui mélangent à la fois des artistes enracinés en Flandre, mais qui travaillent aussi avec des personnalités qui ont des racines qui se trouvent du côté asiatique. C'est le côté de Charlotte Adigéry et Boris Poupoul. Mmh. Boris Poupoul qui est à moitié chinois de par sa mère, on l'a déjà expliqué ici. Il y a un autre duo flamand qui est partagé entre Orson, qui est flamand, et Aïli, qui est une ressortissante, enfin quelqu'un, une flamande, mais d'origine ressortissante. Oui, ça se dit ça.
C'est
un peu administratif. Enfin, elle a des origines japonaises. Ouais, voilà. Okay. Elle s'appelle Aïli Maruyama. Mais le projet du duo a pour nom Aïli. Et donc, c'est un projet à la fois électro et pop. Si vous voulez les voir, ils seront le 21 juillet au Festival de Dour. Si vous voulez les voir là, tout de suite, l'intégralité de leur récent concert à l'ancienne Belgique se trouve sur la chaîne YouTube de l'Abbé. Donc je suis allé voir et c'est assez intéressant, c'est en tout cas festif et jouissif. Il s'appelle Aïli et la chanson qu'on va écouter, elle a pour titre « Nandake ». Aïli, c'est le nom de ce projet flamand. Oui. C'est très Boris Poupoul.
Intriguant. Hein.
Ouais. Ouais. Ils seront au Festival de Dour en juillet. Aïli.
Alors, moi, je vous ai conseillé quelque chose à lire. Vous avez peut-être nous conseillé quelque chose à voir, hein, parce que le week-end arrive.
Vous savez, moi, je me laisse parfois entraîner pour des raisons parfois...
Mystérieuses,
mais toujours explicables.
Oui.
Mais parfois, sur un malentendu, je regarde des choses, voilà. Et
c'est parfois par le biais musical que vous
abordez. Oui, je vais vous expliquer.
Oui.
Je suis tombé sur un film dans lequel je vois au générique André Benjamin.
Ah oui.
Et je me dis, mais c'est André 3000.
Le flûtiste.
Et c'est lui.
C'est lui.
Et on entend sa flûte dans le film. En plus, je vois Michel Williams.
Oui.
Je dis, bah, j'y vais.
Ah ouais, oui, bien
alors,
sûr.
Les premières 20 minutes. Et puis finalement,
ça s'appelle
petit à petit, un charme absolument
indicible.
Et oui, à propos ressortissant, ça veut dire qu'on dépend de l'autorité d'un autre pays. Donc Aïli, elle n'est pas du tout ressortissante.
Elle est juste d'origine.
Ouais,
voilà.
Bon. Donc administrativement, le point...
Mais on avait dit que ce vendredi serait un petit peu difficile. Hein. C'est un vendredi post-Namur. Hein. Donc
j'y vais pour des raisons. Je me rends compte que le film n'est pas ce que je pensais. Et au final, ben, je me dis, j'ai bien fait de regarder parce qu'il y a un charme absolument indicible qui se dégage de ce film. Je vous en ai parlé en off parce que c'est une bizarrerie. Il y a quelques jours, et vous m'avez dit, mais oui, ce film a été présenté à Cannes, je pense, il y a 2 ans.
Je pense que c'était dans l'édition de juillet, l'édition bizarre, parce qu'on était en plein Covid et que malgré tout, ils avaient voulu faire un festival. Et c'est un film de Kelly Richard.
Voilà, qui s'appelle Showing Up. C'est un film inédit.
Oui, c'est typiquement un film de festival, c'est-à-dire que c'est un film de cinéma américain indépendant, très fragile et qui a plus de public éventuellement en Europe que dans son propre pays. Mais Kelly Richard, c'est une amie intime de Todd Haynes qui est en train de vivre un peu la même destinée, hein, c'est-à-dire une destinée alternative aux USA aujourd'hui. Donc voilà.
C'est pas une jeune cinéaste.
Non, elle a 60 ans aujourd'hui, je pense.
Alors, Showing Up, en gros, si on traduit, c'est se montrer, s'exposer, se révéler. Et ce film montre effectivement...
C'est l'histoire d'une sculptrice, non ?
Une jeune artiste, sculptrice, céramiste qui prépare une exposition. Et donc, cette exposition, ça va lui permettre de montrer ses œuvres, mais ça va aussi, le film, en l'observant, permettre de la révéler, de montrer quel est son moteur créatif, dans quel environnement elle vit et comment tout ce processus se passe jusqu'à en arriver à montrer son travail et à l'exposer de façon publique.
Vous savez pourquoi il y avait eu peu de barouf aussi autour de ce film ?
Il n'y avait pas de Michelle Williams en déplacement, évidemment. C'était impossible. Les comédiens, les acteurs américains ne bougeaient pas pendant le Covid, donc c'est passé quasi inaperçu. Et c'est pour ça que je suis heureux que vous m'en parliez, parce que moi, je ne l'ai pas vu à l'époque. Donc voilà, Michelle Williams.
Donc, cette jeune artiste, Lizzie, enfin jeune, oui, d'une quarantaine d'années, mais artiste en devenir, qui n'a pas encore breaké, voilà, elle, cette sculptrice qui fabrique des sculptures en céramique, elle vit à Portland. C'est pas par hasard. Portland, aux États-Unis, est un État qui est détaxé. Et donc, il attire très, très fort les artistes.
Ah ouais.
Oui, quand vous passez à la caisse, vous payez le prix qui est sur l'étiquette. On n'ajoute pas les taxes. Il y a quelques États comme ça aux États-Unis. Portland en fait partie. Donc, c'est une sorte d'aspirateur aux gens un peu bohèmes, voire parfois des gens qui sont aussi à la marge, mais en particulier les artistes. Donc, elle prépare sa prochaine expo, mais elle jongle entre son boulot administratif dans une école d'art, et on y pénètre très très souvent, qui est dirigée par sa mère. Alors, en quoi ce film est particulier ? On a affaire à une sorte de long chemin un peu contemplatif, lent, très lent, déambulatoire, et je me suis dit, vous nous parliez récemment de Chantal Akerman.
Ah oui, la grande expo au Palais des Beaux-Arts.
Et vous aviez aussi débordé sur son film Jeanne d'Ilmaz.
Oui.
On voit en temps réel. On est un peu dans ce monde-là et dans cette grammaire cinéma. Et en cherchant des informations sur ce film de Keith Richard, dans une interview, elle le dit très clairement, ce film est pour elle, non pas une inspiration, mais en tout cas, c'est un film qui est dans cette mouvance d'une grammaire cinéma qui prend son temps, qui montre
qui
en temps réel,
qui
ose le plan séquence. Il y a quelques scènes. Donc, on n'a pas vraiment une histoire, mais on a des instantanés qui sont même relativement longs, avec de très, très jolies scènes où les acteurs peuvent tout à coup développer quelque chose qui est beaucoup moins dirigé.
Mmh.
Exemple, à un moment donné, Lizzie rencontre son père, elle va le voir, et il y a une scène, son père qui vit seul, elle vit dans une famille un peu dysfonctionnelle, les parents ne s'entendent pas, sont séparés dès qu'ils se voient, c'est des noms d'oiseaux, son frère est psychotique, est très très compliqué à gérer. Elle va voir son père, et à un moment donné, il doit chercher une veste. Je suis certain que la réalisatrice a planqué la veste dans le décor,
pour qu'ils cherchent vraiment la veste.
Elle leur a donné les indications sur le dialogue, de quoi ils vont parler. Mais pendant ce temps, il doit chercher la veste. Mais tant qu'il n'a pas trouvé la veste, on ne dit pas « cut » à la caméra. On ne dit pas « couper ». Donc on ne sait pas combien de temps ça va durer. Il y a aussi une scène assez incroyable où elle a un frère donc, qui est un peu psychotique, qui a en tout cas un syndrome, et qui vient à l'exposition. Mais c'est pas une artiste vraiment confirmée, elle est un peu fauchée. Donc, elle a découpé des petits cubes de gouda et on sert une sorte de crément champagnette.
Comme des cocktails de certains éditeurs belges.
Oui. Et donc, le frère, qui est totalement désinhibé, se jette sur le fromage et il commence à manger tout le fromage. Et on sent bien que l'indication a été... Lui veut manger le fromage, il ne comprend pas pourquoi, s'il est à disposition, il ne peut pas le manger. Elle essaye de lui dire « ne mange pas tout, il en faut pour les autres ».
Voilà. C'est extrêmement réaliste ce que vous décrivez
mais
là.
Oui, on est dans quelque chose. Mais comme ce sont des acteurs hors pair, tout à coup, il y a une inventivité, il y a une authenticité dans les dialogues qui deviennent totalement désarmants et on se prend à entrer dans leur intimité, dans leur vie, où ils se révèlent, showing up, à travers des moments de la scène, de scène de vie quotidienne.
Et que fait André 3000 dans toute cette histoire ? Il joue aussi ou
alors,
bien,
comme la mère de Lizzie dirige une école d'art, il est un des étudiants de cette école d'art, dont fait partie aussi la voisine de Lizzie, qui est interprétée par cette actrice d'origine asiatique américaine, mais d'origine asiatique, Hong Chao, qu'on a vu récemment dans The Whale. Elle faisait l'infirmière,
De
Menu.
Ah oui.
Elle était la chef de salle
intrigante de
Ralph Fiennes.
Oui, de ce sorte de... Comment dire ? De huis clos à la fois culinaire et criminel.
Et il faut quand même saluer la performance dans ce film de Michelle Williams parce qu'elle est tout sauf glamour. Mmh. Elle est pas maquillée. Mmh. La garde-robe, ça fait un peu peur. Mmh. On a l'impression que ça a été...
Vous voulez dire qu'elle a pris des trucs à Bev Gibbons ?
Non, je pense qu'elle a été dans une solderie où on achète les vêtements au kilo.
Ah oui, celle au kilo. Oui.
Alors, elle a une petite coiffure au carré.
Pas du tout saillante.
Mais de temps en temps, elle ressemble un petit peu à Chantal Goya.
Ah oui, oh là.
Mais
oui.
Elle est à fond dans son truc. Et la flûte d'André 3000 est très présente parce qu'il y a des moments où elle se balade en forêt. Les arbres sont filmés en contre-plongée. Cette balade prend tout à coup des allures un peu psychédéliques avec la flûte d'André. Ah. Voilà. Donc ça s'appelle « Showing Up ». C'est évidemment du A24. Mmh. C'est disponible sur Netflix, très bizarrement. Normalement, la piste d'atterrissage aurait dû être Arte.
Non, ou Amazon Prime.
Ou Amazon Prime sur un malentendu. Probablement que ça fait
mais partie. Mais il y a peut-être un deal avec A24, puisque vous avez déjà parlé de Bodies, qui est aussi oui. A24, exact. Qui est arrivé sur Netflix. Il y a probablement un deal. Hein.
Ils ont sans doute remporté un panier garni, un pack A24. Et c'est amusant de voir que ce film, en fait, est sorti à peu près 2 mois d'intervalle, enfin sorti ou pas sorti en tout cas, a été montré à 2 mois d'intervalle avec le film de Spielberg, The Fablemans,
où elle a un rôle beaucoup plus exposé, enfin où elle joue la mère presque, enfin, je ne dirais pas bipolaire parce qu'on emploie cet adjectif un peu à tort et travers, mais en tout cas la mère du petit garçon qui est le double de Spielberg.
Qui est une sorte d'artiste non accompli. Ici, on a quelqu'un qui est dans son art, qui est tout à fait intéressant. D'ailleurs, il y a un générique, mais insensé, de jeunes artistes qui ont fourni des pièces censées être créées par les acteurs, mais qui évidemment ne les ont pas faites. Et donc, on a droit à une espèce de galerie, de vraie galerie d'art dans le film.
Michelle Williams, c'est vraiment une actrice à suivre, donc rien que pour ça, voyons Showing Up.
Faut voir sa garde-robe. Enfin, à un moment donné, elle a des crocs avec des chaussettes, une jupe qui ne ressemble à rien, mais elle est là et elle montre ses céramiques.
Eh ben, c'est bien. Voilà. Moi, je trouve ça courageux.
Oui, et il ne faut pas s'arrêter au début du film. Il faut en tout cas se laisser glisser.
Très bien.
Et
noté. Showing up.
Il dégage un charme très, très étonnant.
Très bien.
Dû évidemment à la manière de filmer et aussi à la manière dont les acteurs se sont appropriés la grammaire de la réalisatrice et les personnages qu'ils doivent incarner. Showing Up, et c'est sur Netflix.
Qu'est-ce qu'on écoute ? Du André 3000 ?
Non. Pas du André 3000.
Non.
Déjà écouté André, Noce André et sa flûte.
Oh, ben oui, ben bon. C'est comme vous le sentez, hein.
Ben, je voulais qu'on écoute une américaine qui s'appelle Celia Babini. Même si j'ai vu son nom a été totalement nettoyé des plateformes de streaming pour devenir Celia tout court. Il y a encore quelques fichiers qui traînent sous le nom complet de Celia Babini. Pourquoi ? Parce qu'elle vient de The Voice États-Unis. Année 2019, et je pense qu'elle a un peu envie de faire oublier, par sa trajectoire actuelle, un peu envie de faire oublier d'où elle vient et ce qu'elle a fait. Donc, du coup, tout ce qui est Celia Babini a été nettoyé, reste juste Celia, ce qui n'est pas du tout évident en termes de repérage et de référencement sur les réseaux. Et donc, Celia, elle est chanteuse, elle est américaine, elle écrit ses chansons et elle vient d'arriver avec une formidable composition. La chanson a pour nom « Fooled by Your Calm » et elle se prénomme tout simplement Celia. Celia.
On continue avec des choses à regarder, éventuellement.
Vous êtes là pour ça.
Hein. Oui, non, mais il y a aussi des choses à lire.
À lire, c'est
disait,
vrai.
Des
hein,
choses à regarder.
Ou à dessiner.
Alors,
à cuire, à cuisiner.
Allons faire un petit tour.
Alors, je note, il faut combien de kilos de patates
et de légumes oubliés.
Et de lard.
Allons faire un petit tour du côté d'Apple TV, parce que si on est abonné, autant la regarder, vu que ça coûte tellement cher. Hein, ce serait dommage.
Parce que ça a offert, c'est cher.
Ce serait dommage. Et il y a une nouvelle série policière qui est arrivée. Alors, c'est la technique Apple TV. Hein. Il y a les deux premiers épisodes qui sont arrivés. Le troisième arrive ce vendredi. Donc, il y a déjà de quoi se faire une idée. On ne va pas attendre que ce soit terminé, parce que sinon, là, on arrive comme les Carabiniers d'Offenbach. Donc j'ai regardé les deux premiers épisodes de Sugar. pourquoi Suga? Suga, ça fait tout de suite titre hein, comme Babe Suga. C'est le nom du gars, c'est le nom du détective, ouais, il s'appelle John Suga.
Zucchero, quoi.
Voilà, Zucchero. Il est joué par Colin Farrell. C'est une création d'un certain Mark Protosevich, qui est un scénariste qui a fait pas mal de remakes. Il a fait le remake de Je suis une légende, il a fait le remake de Old Boy. Ici, c'est pas un remake, mais bah, c'est clairement un hommage. Enfin, ça s'inscrit dans la tradition du film noir avec détective privé, c'est-à-dire Raymond Chandler, Dashiell Hammett, enfin, le privé, quoi. Et on pense évidemment à Philippe Marlowe, on pense à Humphrey Bogart et son impair et son chapeau mou. Et, sauf que ça se passe dans le Los Angeles d'aujourd'hui. Et le détective privé, donc Colin Farrell, John Sugar, est mandaté par un producteur hollywoodien pour enquêter sur la disparition de sa petite fille. Il va évidemment contacter tous ceux qui ont connu cette petite fille. Alors, pas grand monde s'inquiète parce que cette petite fille est une junkie notoire. Mais le grand-père dit, attention, même quand elle était en crise, elle me téléphonait pour avoir de l'argent, et j'étais le lien avec elle. Et là, plus aucune nouvelle, c'est ça qui m'inquiète. Le père, par contre, de la fille qui est également producteur, dit « Elle va revenir, c'est déjà arrivé ». Et voilà. Et donc, cet enquêteur va essayer de frayer son chemin parmi beaucoup de proches de la disparue qui ont chacun une version des faits et une vision différente de la personne disparue. En quoi est-ce original? Ben, évidemment, ça. Mais les enquêtes de détectives privés Hollywood, enfin on en a vu 150. Le créateur est assez malin parce qu'il déjoue cette critique-là, parce que l'enquêteur, John Sugar, est terriblement cinéphile. Il est à Los Angeles, il bouffe du cinéma, il adore le cinéma. Et donc en fait, il y a en permanence des petits flashs, presque comme des images subliminales, d'anciens films en noir et blanc. Par exemple, il y a son agent, en quelque sorte, sa collaboratrice, qui dit « Tiens, je t'offre ceci. Quoi ? Un revolver ? En plus, il a horreur des armes. Un revolver ? Oui, mais c'est le revolver que Glenn Ford avait dans tel film et que j'ai restauré. » Donc, il y a énormément de références pour dire « Attention,
ça te désamorce.
Attention, je sais très bien que je suis dans un terrain, non pas miné, mais déjà très fréquenté, donc je vais faire en sorte de mettre des petites références qui amuseront les cinéphiles. » Ça, c'est la première astuce. L'autre astuce, c'est l'autre manière de déjouer les clichés. D'habitude, ces détectives privés sont cyniques, désabusés, ils font ça, ils ont un flair, mais ils n'en ont plus grand, ils sont misanthropes la plupart du temps. Ici, au contraire, le type est un bon samaritain, c'est un type gentil et qui veut vraiment aider son prochain et qui a vraiment envie, donc c'est un héros positif, pas naïf, mais en gros, c'est une sorte d'éloge de la... Oui, c'est ça, c'est vraiment un bon samaritain. C'est l'éloge d'une certaine gentillesse et de vrais soucis des autres. Ce qui est assez original comme approche, parce que finalement, on a toujours droit à une sorte de second degré, de clin d'œil. Ici, le second degré, il est dans les petits apports en noir et blanc des anciens films, mais le personnage, lui, est au premier degré. Mais on a quand même droit à la voix off, à des scènes nocturnes, crépusculaires. D'ailleurs, je trouve que la direction photo il vaut mieux le regarder le soir, toute lumière éteinte chez soi, parce que c'est vraiment, 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 on travaille sur le clair. Quoi,
comme dans The Batman, qui était quasiment irregardable sur un écran de télévision. The Batman.
Celui avec, avec le garçon de Twilight, on est bien d'accord, celui-là qui était...
Avec Robert Pattinson.
Avec Robert Pattinson, oui. Non, c'est... Voilà, donc...
Et un excellent Paul Dano à la fin.
Voilà, ouais. Donc la direction photo, je trouve, laisse un petit peu à désirer. C'est réalisé par Fernando Meirelles, qui est un cinéaste latino qui avait connu son heure de gloire à Hollywood avec La Constance du jardinier, Constant Gardener avec Ralph Fiennes, il y a fort longtemps, qui depuis lors avait fait Les Deux Papes, un formidable film, et qui ici vient mettre son savoir-faire au service d'une série télé. Alors, est-ce que c'est prometteur? En tout cas, c'est
fort distrayant de par les prémices que je vous ai données. Colin Farrell fait le boulot et donc suite dès ce soir sur Apple TV avec le troisième épisode. Premier épisode place, c'est du 50 minutes et puis après on est dans des épisodes de 35-40 minutes. Enfin, durée variable puisqu'on peut se le permettre sur les plateformes. Ça s'intitule tout simplement Sugar. Voilà.
Sugar. Moi, je m'étais essayé à Palm Royale.
Oui, pas encore. C'est ennuyeux.
Bah non, mais le problème, c'est qu'ils veulent faire leur White Lotus.
Ah, c'est ça. C'est
alors,
ça.
Malgré Kristen Wiig, oui, qui est aux commandes, qui est toujours formidable, oui, malgré Ricky Martin, oui, qui est plutôt pas mal.
Sacré Ricky
Martin.
Oui,
oui, en serveur d'un hôtel, oui, de luxe, malgré Laura Dern. Voilà. Je me suis fait
vite désintéressé de la question.
Et fatigué.
Surtout si vous connaissez le modèle et qu'il vaut mieux aller vers le modèle que la
oui, copie. Oui, qui tourne pour l'instant sa saison 3, je pense, en Thaïlande.
Voilà.
Merci Antoine Duhart, merci mon cher Hugues.
Avec grand
repos
plaisir.
Repos jusqu'à lundi.
Oui, et COD, soirée Critique on Demand à Liège.
À Liège,
la semaine prochaine.
Oui, oui, donc on a tout intérêt à se reposer.
Oui, oh,
en
oui,
général, c'est chaud.
C'est chaud.
Au parc.
Oh, oui.
Bon, quelqu'un qui ne se repose pas selon toute vraisemblance, c'est Maggie Rogers. Cette américaine étudiante dans un collège de musique qui avait passé un
oui,
jury
oui,
devant.
Pharrell Williams voilà, ne touche à rien.
Oui. La vidéo est absolument oui, incroyable. Bon, elle a connu une espèce de buzz comme ça, instantané suite à ce jury qui avait été filmé et ensuite posté. Et là, elle sort un troisième album. C'est déjà son troisième disque. Donc, elle a terminé ses études de musique. Et lors d'une interview, une journaliste lui demande comment ça va, un nouvel album et tout. Elle dit, entre mes études, la musique, c'est compliqué. Elle dit, mais t'as arrêté, là, c'était fini, t'as ton diplôme, quelles études? Ah oui, mais non, le problème, c'est que...
Elle s'est lancée dans d'autres
oui,
études.
Quand elle s'est réveillée un matin avec ce buzz qui l'a dépassée complètement, elle s'est retrouvée dans une sorte de burn-out médiatique et elle a eu besoin de se raccrocher à quelque chose. Et donc, on lui a diagnostiqué effectivement une fatigue chronique parce qu'elle avait du mal à gérer ce qui lui arrivait, alors qu'elle l'avait cherché en faisant des études de musique. Mais enfin, elle voulait faire de la musique, mais pas forcément tous les accessoires qui vont avec, y compris être exposée. Donc, elle a repris des études de théologie.
Ah oui.
Pour essayer de mieux comprendre la philosophie de vie des uns et des autres, afin de choisir celle qui lui conviendrait le mieux pour allier à la fois une vie privée équilibrée et une vie professionnelle satisfaisante.
Espérons qu'elle ne tourne pas comme Natacha Saint-Pierre.
Oui.
Et qu'elle ne fasse pas des albums sur Teilhard de Chardin.
Allez savoir. Quoi qu'il en soit, elle vient de sortir un troisième album qu'elle dit avoir écrit et enregistré en 5 jours. L'album, ça s'entend pas. Hein. Mmh. L'album s'appelle Don't Forget Me. Et c'est Maggie Rogers avec laquelle on se quitte et on se dit à lundi.
Très volontiers.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Audio.